Campus Amiens est disponible sur tous les supports d'écoute,
en FM sur 97.7,
sur internet radiocampusamiens.fr
et désormais en qualité numérique sur le DAB+.
Radio Campus Amiens.
Radio Campus.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 24 juin 2025 et vous écoutez Info Club Sandwich sur Radio Campus Amiens 87 FM, votre quotidienne d'actualité locale et associative. Pour assurer cette émission, je ne suis pas seul, je suis très très bien accompagné d'une très fine équipe. Tout d'abord, on a Sonia, la technique. Salut Sonia.
Salut Thomas.
Est-ce que tu peux me présenter un petit peu ce qu'on a prévu en termes de musique ?
On va écouter Zbeul de Lynx IRL et Les Demoiselles de Provence de Vladimir Kosma.
Merci beaucoup Sonia. Et je suis accompagné du grand El Famoso Malo.
Salut Thomas.
Comment ça va Malo ?
Ça va super.
Écoute, j'ai décidé d'être clément aujourd'hui. Pas d'infos bizarres, pas de célébrités.
Ah, tu me laisses tranquille un peu ?
Oui, voilà. J'y ai pas pensé pour être honnête, mais je me suis dit, c'est ton petit jour de repos.
Merci beaucoup. Évidemment.
Tu peux compter sur moi, je retrouverai des infos nulles. Mais maintenant, place à l'Info Club Sandwich. Et au cours de Minuit avant la nuit, nous avons l'occasion d'interviewer deux des artistes présents à la programmation du festival. Et le premier de cet artiste n'est nul autre que Double T. On s'écoute ça tout de suite.
Double T, bonjour. Là, on est à minuit avant la nuit. Comment ça va déjà dans un premier temps ? Comment tu te sens ?
Salut Rémi, merci de me poser ces petites questions, ça fait plaisir. Écoute, on est très très content d'être présent aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on veut faire ce festival, donc très heureux d'être là.
Pourquoi il représente quoi Minuit avant la nuit pour toi ?
Ça fait un petit moment qu'on tourne, on écume les scènes amiennoises. On a fait la première partie du Zénith de Miss Solar il y a une quinzaine de jours. Et donc c'est un peu la dernière coche qui nous restait à cocher justement pour arriver sur avoir fait toutes les scènes amiennoises quoi.
Oui, c'est vrai que tu as fait le cirque, tu as fait le Zénith, là c'est Minuit avant la nuit. Il y a quelques temps, on te voyait sur scène en duo, notamment il y avait DJ Voix. Commenter aujourd'hui comment ton set il a évolué, est-ce que tu peux l'expliquer à nos auditeurs ?
Il y a à peu près 2 ans, j'ai eu un petit souci à la voix justement, qui fait que j'ai pas fait de concert pendant un moment, et avec mon ancien DJ, à qui je passe un big up, on a décidé d'arrêter de travailler ensemble, et j'ai rencontré un duo de frères qui sont Majin et Seyan. Donc Majin qui est un rappeur et qui est maintenant mon backer sur scène, donc qui me soutient à la voix, et Seyan son frère qui est beatmaker, donc il est compositeur de musique, de prod, et là il est derrière les platines sur scène avec nous.
Alors là tu défends aussi un nouvel album, La vie est belle tant qu'on est vivant, est-ce que tu peux dans un premier temps nous le présenter ce projet, à quoi il ressemble ?
Effectivement, j'ai sorti mon deuxième album, La vie est belle tant qu'on est vivant, le 21 mars dernier. C'est un 10 titres qui, je pense, porte bien son nom et est un peu dans ma vibe chroniqueur du quotidien, avec le côté double T, des sons un peu plus sombres que d'autres, mais le tout vers l'espoir et la lumière.
Là, ça fait, si je dis pas de bêtises, ça fait 3-4 mois qu'il est sorti. Quel regard tu portes maintenant qu'il est sorti, que les gens ont pu le découvrir notamment en live ?
Alors, en fait, dans ma vie perso, au moment de la sortie, il y a eu pas mal de gros changements. Donc, je suis un petit peu déçu de la manière dont je l'ai défendu par rapport à d'autres projets, comment j'ai pu les défendre avant, tu vois, en termes de com, de présence sur les réseaux, d'être là au bon moment. Mais je n'étais pas trop inquiet parce que je trouve que c'est un projet qui va plus justement vivre sur le long terme. C'est 10 morceaux qui, pour moi, ont besoin d'être écoutés plusieurs fois pour être compris. Un projet qui peut s'écouter vraiment les 10 titres d'affilée pour avoir un sens, comme prendre les morceaux petit à petit et les intégrer quoi. Et j'ai beaucoup de gens qui, au fur et à mesure du temps qui passe là depuis la sortie, m'envoient des messages en me disant en fait je commence seulement à vraiment comprendre l'album et c'est ton meilleur projet quoi. Donc en tout cas je suis content des retours qui vont dans ce sens là.
Justement, on a vu le clip de Poma, on a vu le clip de Génération D, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'on va avoir l'occasion de découvrir d'autres clips ou d'autres promotions liées à ce projet prochainement ?
Alors effectivement, c'est les deux morceaux qu'on a clippés pour le moment, parce que c'est deux titres qui me tenaient beaucoup à cœur et qu'on a fait avec Yulen Niriarte Ariola du studio 3 Points. Donc avec qui on travaille depuis des années. Et on a commencé un autre visuel en même temps qu'on nous faisait Génération D. On a commencé un autre visuel qui va certainement sortir cet été ou à la rentrée de septembre. Mais en tout cas, la vie est belle tant qu'on est vivant. On n'a pas donné toutes ces surprises. Hein, il en reste encore un petit peu à dévoiler. Il y a encore quelques secrets bien cachés.
Trop bien, justement, sur tout ce qui est la suite. Là, tu l'as dit, on t'a vu à Cité Carter, on t'a vu au Zénith. Là, tu es à Minuit Avant la Nuit. Est-ce qu'il y a des concerts qui arrivent, d'autres concerts qui arrivent prochainement pour toi, des tournées en préparation, je ne sais pas.
Eh ben, quand je parlais de gros changements perso dans ma vie, en fait, c'est d'un point de vue plus perso, moi je travaille aussi dans la musique à côté. Et en l'occurrence, je suis booker, donc mon rôle c'est de trouver des concerts. Et ça me permet de étoffer mon réseau. Et donc on a pas mal de premières parties qui sont en train de se mettre en place, un peu partout en région et en dehors, qui auront lieu plutôt à l'automne et début 26. Mais ça, je vous en reparlerai à la rentrée.
Super, en effet, tu le dis, à un côté, t'es booker, t'accompagnes d'autres artistes, notamment via une structure qui s'appelle Satel Inc. Est-ce que tu peux nous présenter cette structure, justement, cette association ?
Avec grand plaisir. C'est une asso qu'on a montée il y a un an, qui est en fait un label à 360 degrés. Donc 360 degrés parce qu'on va travailler avec des artistes sur l'ensemble des sujets en fait qui sont importants pour développer une carrière d'artiste. Ça veut dire autant la partie sortir des disques, donc la partie phonographique liée à un label de musique, que la partie justement développer le live et les concerts. Donc ça, c'est plutôt là où moi j'interviens, où j'ai un petit peu de billes puisque je travaille là-dedans depuis quelques années. Et donc la partie tourneur en fait, pour réussir à trouver des dates aux artistes avec lesquels on travaille et les faire sortir de région, parce que c'est un label avec lequel, enfin, on travaille uniquement avec des artistes aminois pour le moment, avec pour objectif de mettre un peu de lumière sur notre ville, quoi, parce que les talents ils sont là, mais maintenant il faut réussir à les mettre en avant, quoi.
Est-ce que tu peux me drop aussi quelques artistes que vous accompagnez avec Satellite, qu'on se rende un petit peu compte?
Ouais, bah, tout à l'heure je parlais de mon backer Majin, qui est aussi rappeur, donc qui travaille beaucoup avec son frère Seyan sur scène avec nous aussi, qui lui est, comme je disais, beatmaker. Donc on travaille avec les deux aussi sur le label. On travaille avec un artiste qui a peut-être plus besoin de présenter, d'être présenté chez Radio Campus à Amiens, qui s'appelle Zomat, puisque ça doit être celui qui a fait le plus de Château Blanc et d'émissions Radio Campus depuis ses débuts. On travaille sur le live avec Soro et Somsouk, donc ça c'est vraiment moi qui m'en occupe en termes de booking, avec justement Somsouk qui manage le projet en plus et qui s'en sort très très bien à ce niveau-là. Et on travaille avec un artiste qui s'appelle Yendis, donc un projet qui est encore un peu sous le radar, mais qui a déjà quelques scènes aminoises à son actif, plus en band, donc c'est intéressant parce que ça fait de la variation. C'est vachement plus ouvert entre pop, rock, rap, c'est assez hybride. En fait, on travaille avec pas mal de projets hybrides, on n'a pas vraiment d'artiste qui est dans une vibe très très... tu vois, par exemple, on n'a pas un truc ultra mainstream rap. Moi, par exemple, je suis peut-être un des artistes qui peut être les plus... côté mainstream entre guillemets, parce qu'il y a un peu de pop et tout, mais à des moments ça va être vénère, à des moments ça va être calme, et c'est un peu, je pense, l'ADN de Satellink et des constellations qu'on essaie de défendre, quoi.
Pour terminer, on va revenir à toi, Double T, l'artiste. C'est quoi les projets pour la suite? Qu'est-ce qui arrive après La Vie est Belle Tant Qu'On Est Vivant?
Alors déjà, après La Vie est Belle Tant Qu'On Est Vivant, il y aura la réédition de La Vie est Belle Tant Qu'On Est Vivant. Donc j'ai encore quelques titres à sortir qui sont liés à ce projet et à cette vibe-là. Est-ce que ce sera vraiment une réédition? Est-ce que ce sera la suite? Peut-être l'après-match, puisque j'avais sorti avant-match pour annoncer un peu le projet en novembre dernier. Donc c'était un 5 titres qui était sorti à la Toussaint 2024. Donc peut-être que ce sera après-match. Mais en tout cas, il y aura quelques morceaux qui vont se rajouter pour conclure définitivement cette histoire. Et puis après, on travaillera sur un projet un peu plus long pour 2026.
Très bien. Eh bien, on est donc en attente et on surveille tes réseaux sociaux. À plus. Et puis merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci encore pour l'invitation. Et puis venez nous voir en live, aller streamer La Vie est Belle Tant Qu'On Est Vivant. Gribao.
Merci beaucoup à Rémi et Double T pour cette interview. On enchaîne avec une autre artiste du festival, en l'occurrence Lynx IRL au micro de Malo.
Lynx, tu viens de jouer à Minuit Avant la Nuit. C'était comment? Quelle ambiance? Quel ressenti après ta performance?
Eh ben, c'était un peu la folie, hein. Vraiment, je m'y attendais pas. Quand je suis arrivée, il y avait du monde jusqu'à ce que je puisse plus voir le monde qu'il y avait. Vraiment, ça m'a beaucoup touchée de voir qu'il y avait des gens qui avaient l'air de connaître ma musique. C'est la première fois de ma vie que ça arrive, faut le savoir. D'habitude, c'est mes potes ou ma mère qui connaissent les paroles. Donc ça m'a vraiment beaucoup touchée de me rendre compte que peut-être ça commence à me dépasser un petit peu. Et du coup, l'ambiance qui va avec, hein, même ceux qui ne connaissaient pas forcément, on s'est mis bien dedans. Je pense qu'on a su mettre un peu à l'aise tout le monde. Moi, c'est ça que j'aime bien faire, créer du lien avec les gens, qu'on se regarde, qu'on s'écoute, qu'on danse ensemble. Et c'est ça qui s'est passé. Donc vraiment, je viens de passer un très, très, très bon moment.
Est-ce que ça t'a donné envie de faire d'autres grosses scènes comme celle-ci ? Enfin, là, tu sens qu'il y a un truc vraiment dans le public. Même, je suppose que tu as dû voir des gens qui ne connaissaient pas. Qu'on a dû découvrir ta musique. Est-ce que ça t'a donné envie de, on va dire, t'étendre un peu plus encore ?
Bah, bien sûr, dans tous les cas, on est sur le process. C'est ce que je fais. J'ai déjà joué devant plus de personnes et que j'avais pas autant kiffé, il n'y avait pas autant d'ambiance. Donc vraiment, c'était particulier aujourd'hui. Donc ouais, vraiment, le fait d'être devant des personnes qui ont l'air de capter ce que je veux dire et ce que je veux faire, c'est ça qui me touche. Parce que si je me sentais comprise et tout, je ferais peut-être pas de musique. Et voilà, du coup, j'aime bien vraiment ce qui s'est passé aujourd'hui, ce lien qui a pu se créer.
T'as sorti ton dernier EP il y a 2 jours. Et le dernier, c'était 2 ans auparavant, qui s'appelait Miosis. Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a poussé à retourner au studio 2 ans après ?
Alors c'était 1 an après parce que j'ai commencé à taffer dessus il y a un peu plus d'un an. Et tout simplement parce que j'ai rencontré les bonnes personnes. Le premier EP, je l'avais fait pas mal toute seule, j'ai eu un peu de soutien, mais on va dire que artistiquement, j'étais solo de chez solo, j'avais pas de beatmaker, toutes les instrus c'était des type beats que j'avais acheté. Et là, en fait, j'ai eu la chance de rencontrer Adam Carpels, qui est mon beatmaker principal sur l'EP, Matt Attard, qui est un producteur anglais de Cardiff, avec qui, pareil, ça s'est trop bien passé. Et puis, j'ai été accompagnée par la Cave aux Poètes, qui est une salle à Roubaix, et par le Flow, qui est une salle à Lille, qui ont pareil ont pu m'aider financièrement et même question soutien et organisation, j'ai pu utiliser leur studio, etc. Donc tout ça, en fait, ça a créé une dynamique qui a fait que j'étais obligée d'en faire quelque chose, et c'est ça le résultat. Et puis aussi je voulais un peu plus creuser Miosis, je faisais un peu de l'exploration de certains genres et même au niveau des paroles, et là je suis allée, je pense, un peu plus loin. J'ai réussi à creuser autant les genres que ce que je voulais dire. Et là, avec le temps que ça a pris, quand même, il est sorti et je suis trop trop contente, mais j'ai déjà la tête dans la suite et j'ai encore envie d'aller creuser encore plus et d'aller plus loin.
Comment t'as été amenée à rencontrer un producteur anglais ? Est-ce que t'as passé du temps là-bas ?
Oui, en fait, bah, ça aura pas échappé aux gens qui m'écoutent. C'est quand même en Angleterre que je puise la plupart de mes inspirations musicales. Notamment Bristol, Londres, tout ça, donc jungle, drum and bass, breakbeat, grime, neo-soul. Donc forcément, à un moment, il fallait que j'aille à la source. Mais donc, ça arrivait plusieurs fois. Mais en fait, là, particulièrement, c'était pour une résidence que j'avais faite, qui était organisée au Strong Room Studio, qui est un studio emblématique de Londres, où mon album préféré du monde entier a été enregistré et a été travaillé. C'était The Prodigy, The Fat of the Land. Il a été fait là-bas. Et aussi, pareil, If You Wanna Be My Lover.
Des Spice Girls.
Exactement, il a été fait à ce studio où j'ai fait ma résidence, donc c'était un peu historique comme moment. Il a été aussi la résidence était chapeautée par Taz, qui est le producteur de Dizzy Rascal et aussi un des producteurs de Little Sims, donc j'étais vraiment très 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 bien entourée. Et un des producteurs qui était là-bas, c'était Matt Attard, et ça m'a fait rire parce que vraiment au début il était enfin, il y avait beaucoup de gens qui étaient plus vraiment rap, R&B, ce genre d'ambiance. Et moi, je ne me retrouve pas à 100% là-dedans. Du coup, je me suis un peu sentie sur le côté marginal. Et au bout du 3e jour, il y a ce fameux Matt qui est arrivé avec sa tête de nerd et son t-shirt Slipknot. Et je me suis dit, attends, lui, on va s'entendre. Et c'est comme ça qu'est né le morceau Plafond. Pas un plafond, logiciel, qui est dans l'EP. C'est le numéro 3, si je ne me trompe pas, dans l'EP. Et voilà, c'est lui qui a la prod à 100%.
Et bien justement, cette EP, qu'est-ce qu'il va raconter ? Est-ce qu'il y a une... Enfin, qu'est-ce qu'il raconte plutôt ? Est-ce qu'il y a une thématique globale ? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose en toi que tu as voulu mettre dedans, quelque chose de précis ? Ou c'est quelque chose qui va un peu dans tous les sens ?
c'est plus quelque chose qui va dans tous les sens, dans tous les cas, ma direction et ce que je veux faire avec ma musique, dans ma tête c'est assez précis, je sais pas si c'est clair pour ceux qui m'écoutent, mais je, comme je disais tout à l'heure, je cherche à créer du lien, je cherche à parler aux gens, qu'on se comprenne, qu'on s'écoute et qu'en fait un peu se remettre à sa place. Et en gros, il n'y a pas de thème particulier. J'essaye juste de creuser tous les questionnements qui peuvent me traverser, mais au final, ils reviennent quand même sur les mêmes thématiques. Il y a un truc très engagé, un truc un peu absurde, un truc un peu philo. Je me demande pourquoi on est là, et si on est là, est-ce que c'est vraiment pour crever la dalle pendant qu'il y en a qui sont assis sur des putains de tas d'or et tout. Donc tout se rejoint un peu au final dans les thèmes, et globalement, il y a beaucoup d'indignation, de volonté d'exister. Et ça peut se traduire sur plein de thèmes différents. Donc c'est un peu tout ce qu'on peut retrouver dans l'EP. Et voilà. Et l'idée, c'est que le prochain projet sera un peu plus précis dans ce que j'essaie de dire. Là, je trouvais que c'était la première fois que j'avais enfin les moyens humains, financiers et... enfin voilà, humains et financiers pour dire ce que je voulais dire. Donc j'ai encore un peu exploré, comme dans le premier EP, et là je me sens un peu plus solide, j'ai moins l'impression d'avoir quelque chose à prouver et moins à explorer, dans le sens où il y a moins cette liste de musique et de type de musique que je voulais faire, de cases à cocher. Je les ai un peu cochées, ces cases, avec mes deux premiers EP. Donc là je me dis bon, je vais me poser un peu sur un style, un thème, et je vais creuser.
Bah justement, c'était un peu ma question d'après, parce que du coup, tu dis que dans les thématiques, il y a un peu de tout, mais aussi dans les instrus, tu vas chercher beaucoup de styles. Et moi, du coup, je me demandais si pour toi, l'instrumental, c'est vraiment la base d'un son. Est-ce que pour toi, c'est vraiment ce qui t'aide à écrire ensuite, ou des fois, c'est un thème, etc. Mais j'ai l'impression que les prods prennent beaucoup d'importance chez toi.
Alors oui, c'est le cas. C'est pas forcément en lien avec mon processus, comme quoi je commence par ça ou autre. C'est vraiment parce que, bah, je pense que c'est normal si j'en fais, mais je suis vraiment passionnée de musique. Je digue énormément. D'ailleurs, j'ai un side project de DJ, un peu. Je suis vraiment très très perso, c'est juste moi et mon salon. Et j'adore ça en fait. J'adore découvrir des nouveaux styles, de creuser des styles que je connais déjà, de voir toutes les ramifications entre différents trucs. Donc au final, les prods, elles prennent beaucoup de place, parce que pour moi, c'est vraiment autant, enfin aussi important que le texte. C'est quand on fait les instrus, en fait, je dis justement « on » parce que c'est jamais mon beatmaker qui se retrouve tout seul et qui m'envoie les trucs. On est ensemble, on commence le truc ensemble, je mets mes mains dedans, que ce soit, je sais pas, sur les drums, sur les mélodies, ce genre de trucs. Donc au final, ça prend de la place pour moi, parce que ça fait partie de la chose. Je suis pas du tout à dire le texte avant tout ou quoi. C'est vraiment si le texte est bien, mais qu'il n'y a pas de flow, il n'y a pas de musicalité derrière, on se fait un peu chier. Donc autant le lire, quoi. Donc c'est pour ça je tiens vraiment à avoir un truc qui fait bouger la tête en plus que le cerveau.
Dans tes clips, il y a pas mal de plans où on te voit dans la rue avec tes potes, on te voit un peu en train de marcher, des fois des plans qui font un peu style, qui reproduisent un peu de l'amateur, comme si on avait pris ça au téléphone. Enfin, est-ce que pour toi, dans tes clips, t'as envie de garder une certaine simplicité et montrer que bah, finalement t'es quelqu'un de simple, qui est avec ses potes, ou c'est du pur hasard?
Déjà, c'est un truc que je fais. Même j'avais un projet avant où j'étais plutôt anonyme. Et ça a toujours été ça, en fait. J'ai même pas forcément réfléchi le truc, mais je me suis rendu compte que oui, en fait, dès que j'avais des idées de clips, c'était toujours quelque chose avec la ville, le fait de marcher dans la ville et de s'amuser du décor urbain. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'inspire dans tous les cas. Donc en fait, forcément, naturellement, les images, elles me viennent avec. Maintenant, il y avait aussi, évidemment, on va pas se mentir, des questions matérielles et financières qui faisaient que je pouvais pas me permettre plus. Mais ça n'a jamais été un problème, parce que naturellement, j'avais ces idées-là. Du coup, au final, ça me va très bien. Maintenant, si j'ai un petit peu plus de financement, peut-être que je testerai d'autres choses. En tout cas, moi, j'aime beaucoup les choses un peu surréalistes, absurdes. Et puis, en fait, c'est un peu la continuité de mes thèmes, de mes questionnements. Donc, c'est un peu quelque chose où j'aimerais bien l'explorer visuellement, mais j'ai quelques idées. Mais il y en a aussi pas mal qui demandent pas forcément des moyens en termes de thunes, parce que c'est des trucs de ouf, mais vraiment plus le temps de se poser et je sais pas, d'utiliser des masques, des décors, ce genre de trucs. Pas forcément des choses qui coûtent cher, mais juste où il faut les bonnes idées et pourquoi pas les bons artistes, en fait. C'est plutôt ça. Aussi, utiliser la 3D et tout pour le côté geek, quand même, j'aimerais beaucoup.
Et pour finir, parlons un peu du futur. Là, c'est quoi la suite? Est-ce que tu vas te reposer un peu après la sortie de l'EP ou est-ce que t'enchaînes les dates?
Ah ouais, là, se reposer, c'est pas pour tout de suite. Je pense pas avant 2026. Et ouais, du coup, j'ai des dates là qui s'enchaînent. La semaine prochaine, enfin le 27, je joue à Bayeul. Le 28, à Dunkerque. Enfin voilà, j'ai pas mal de dates qui s'enchaînent. Le 29 à Lille. Le 5 juillet au Main Square, à Arras. Donc ça, c'est que des dates qui me chauffent de ouf. J'ai trop hâte de les faire. Et en fait, globalement... J'ai toujours un peu des concerts, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et j'en fais régulièrement dans tous les cas. Et là, vraiment, le côté studio, vu que ça date un peu le moment où j'ai enregistré et fait les morceaux, j'ai déjà trop hâte de m'y remettre. Donc cet été, on va se mettre une bonne résidence avec Sujigashira, qui est mon DJ backer sur scène, mais qui est aussi producteur, bassiste, enfin multi-instrumentiste. Et on va se poser avec lui, Adam Carpels aussi, et le Kaiju qui est aussi producteur et enfin, producteuriste très très fort. Donc voilà, on va bosser ça et on est déjà sur un futur projet. J'aimerais bien avoir un nouveau live, donc avec des nouveaux morceaux d'ici l'hiver. D'où le fait que je me repose pas avant au moins 2026.
Eh ben très bien, on attend le projet. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci beaucoup Malo pour cette interview de Lynx IRL. Et justement, on s'écoute tout de suite son titre, Zbeul.
Attends 300. J'compte pas attendre 300 berges. J'compte pas attendre les sceptiques. Sans les paillettes, les épices, les pessimistes pas dans Zef. J'compte pas attendre 300 berges. J'compte pas attendre les sceptiques. Sans les paillettes, les épices. Le félin simis, London style. Je fais la bise comme un grand box style. Je navigue entre ce que je combine et ce que je combats. Rien avec des virages dans ce bail. Le félin simis, London style. Trop manie en boîte ni en costard. Trop manie en boîte ni au bout de ma vie. Je passe plaisir aux bâtards d'en face. C'est pour mes go en baggy, les refs en ici qui font bugger les vieilles. La line peut saler, le futur aussi. Tout brûler, c'est le main event. Frère, sans moi juste un bon break. Il est pas temps qu'on se taise. J'compte pas attendre 300 berges. J'compte pas attendre les sceptiques. Sans les paillettes, les épices, les pessimistes partent dans Zef. J'compte pas attendre 300 berges. J'compte pas attendre les sceptiques. Sans les paillettes, les épices. J'essaie de rester positif, c'est dur. Mais y'a pas de fumée sans fun. Ils voient le futur dans les films, j'ai vu. L'avenir dans un Phuket sans feu. Je me demande encore pourquoi. Jouer les crevards si on meurt tous à la fin. Ils se demandent encore pourquoi. Les arabes sont pas comme dans Aladdin. J'ai l'habitude. Reste focus, avance tête baissée, si tu te chies dessus. Des fils main dans la main pour les pires trucs. Des sœurs qui se mangent la tête, des refs qui se tuent. Au fond, j'suis pisseux. Un son d'elfe qui peut brûler la piste. T'as pisté. C'est pour mes couilles, mais que pour tous ceux que ce monde a skippé. J'compte pas attendre 300 berges. J'compte pas attendre les sceptiques. Sans les paillettes, les épices, les pessimistes partent dans Zef. J'compte pas attendre 300 berges. J'compte pas attendre les sceptiques. Sans les paillettes, les épices.
Maintenant, pour entamer cette deuxième partie d'émission, Malo, tu continues ta série dans laquelle tu as interrogé des bénévoles de Minuit avant la nuit.
Effectivement, on continue cette semaine bénévole avec le témoignage de Lynn, qui était bénévole décoration sur Minuit avant la nuit. En quoi consiste le rôle d'un bénévole décoration? Quelles sont ses missions? On écoute Lynn.
Eh ben, on se réunit un peu avant, c'est-à-dire je dirais début mai, et on commence à travailler en fait avec Lucille Jarling, notre boss on va dire. C'est elle qui s'occupe de créer toute la scéno, d'imaginer, de penser tout ça. Donc on se réunit avec elle et elle nous explique un peu ce à quoi elle a pensé et on commence à travailler tout doucement donc depuis mai et jusque là après pendant la semaine du festival, on monte tout ce qu'on a créé, que ce soit des pièces en boîte qu'on a peintes, découpées, que ce soit la barque aussi qu'on repeint, tout plein de modules, on les monte pendant la semaine du festival, après les avoir fabriqués, quoi.
Est-ce que les bénévoles ont un choix sur un peu sur la direction artistique. Ils peuvent aussi décider un peu de la DA que ça va prendre.
En général, on suit ce à quoi Lucille a pensé, mais parfois, oui, on a des idées ou des choses où si elle a des questions aussi, elle nous demande. Enfin, il y a parfois des choses à laquelle elle a réfléchi, mais elle sait pas trop précisément. Elle nous demande si on n'a pas une idée aussi. Donc, on peut parfois ajouter une petite touche si on a une idée qui lui semble intéressante, oui.
Et du coup, cette année, c'est quoi la direction artistique
Tous les ans, on essaye de suivre un petit peu l'affiche qui est faite, de toute façon, pour correspondre à la direction artistique du festival en général. Donc, par exemple, cette année, on a repris les damiers beaucoup, qu'on a repeint sur la barque. On essaye aussi de garder, je sais que Lucille, elle essaye de garder aussi les directions artistiques un peu des années précédentes, avec, Minuit avant la nuit, c'est des lunes, les soleils, enfin, des choses, on essaye de garder des formes claires qu'on retrouve d'année en année finalement.
Et pour les matériaux utilisés, est-ce qu'il y a une volonté écologique ? Est-ce qu'il y a de la récup ? Comment ça se passe ?
Il y a beaucoup de récup. On récupère beaucoup de choses des années précédentes. En fait, tout le bois qu'on a utilisé d'autres années, on s'en resserre. Soit on le redécoupe, soit on garde les mêmes modules et on les raccroche. Il y a vraiment une volonté complètement qui va avec le festival de développement durable, on va dire, et de faire quelque chose d'écologique aussi dans la décoration, bien sûr. On jette pas tout après, on garde tout ce qu'on fait.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci beaucoup Aline et à Malo pour cette chronique. Place à l'actualité maintenant. Venez découvrir un atelier en famille qui a lieu au jardin archéologique de Saint-Acheul. Le mercredi 25 juin, l'atelier vous propose une découverte numérique sur tablette des collections des plus grands musées du monde, suivi d'un atelier et ou de jeux de société. Attention, les réservations sont obligatoires. On enchaîne sur un deuxième atelier qui cette fois prendra place à la maison Jules Verne. Il aura lieu le 26 juin et se compose de deux parties. La première consistera dans une balade dans la maison Jules Verne, et la seconde, elle vous permettra de vous initier à la création des haïkus, ces célèbres poèmes japonais très codifiés. De la même façon que le précédent atelier, attention, pensez bien à réserver sur le site de la maison Jules Verne. Et pour finir, c'est bientôt la fin de l'exposition qui avait ouvert ses portes en début du mois. Les héros de la gouttière, en collaboration avec le 29e rendez-vous de la BD, fermera ses portes le 28 juin prochain. Il serait plus que dommage de ne pas s'en profiter. Pour ce faire, prenez la direction de la bibliothèque Hélène Bernin, et dont l'entrée est gratuite. C'est maintenant la fin de l'émission de ce jour. On se quitte en musique avec Demoiselles de province de Vladimir Kosma. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et on se retrouve demain pour un nouvel épisode d'Info Club Sandwich.